RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes samedi, l'arbre à palabres de la jeunesse africaine est de retour. Aujourd'hui, nous allons vous faire saliver en parlant de cuisine de chez nous. L'art culinaire africain a fait une entrée tonitruante dans le quotidien des Africains comme des Européens. Les produits africains, au packaging et au marketing bien étudiés, remplissent désormais les rayons des épiceries fines françaises et au-delà. Des événements dédiés à l'art culinaire du continent ont même vu le jour, à l'instar de We Eat Africa, un festival gastronomique qui réunit le gotha des chefs africains. Malgré cet engouement réel, la gastronomie du continent souffre encore de quiproquos. Pour éviter la cuisine africaine, tous les prétextes sont bons. Elle est trop grasse ou trop épicée. Et afin de casser ces préjugés, de nombreux jeunes tentent de valoriser la gastronomie du continent, notamment à travers les réseaux sociaux, mais pas que. En parlant de réseaux sociaux, l'annonce de cette émission sur notre patrimoine culinaire a suscité un tel engouement que nous avons décidé de la décliner en deux épisodes. D'abord en parlant de passionnés de cuisine et ensuite en abordant l'aspect entrepreneurial la semaine prochaine. On a beaucoup de choses à se dire. À Tienudem, c'est parti.
Alors on dit quoi ? Avec Djaran Djaï.
Et pour débuter cette émission, je vous propose d'accueillir une voix que vous connaissez. Bonjour Joanne.
Bonjour Diara.
Vous avez l'habitude de l'entendre dans Alors on dit quoi ? C'est elle qui vous livre chaque samedi des conseils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, Joanne est à mes côtés dès le début de cette émission, car elle a plusieurs cordes à son arc.
Tout à fait.
La thématique du jour vous intéresse particulièrement, Joanne. Vous êtes une passionnée de cuisine depuis votre tendre enfance.
Depuis ma tendre enfance, je me souviens quand j'étais au lycée, parce que moi je suis camerounaise. Au lycée français, on me surnommait Mamie Chop Chop. Donc, les Camerounais savent que chop, ça veut dire bouffe, ça veut dire gourmandise. Donc, j'ai toujours eu un rapport assez particulier avec la nourriture. Et pour la petite histoire, à 7 ans, je voulais ouvrir un restaurant pour animaux. Donc, c'est pour vous dire à quel point...
Où en est l'état de ce projet, Joanne ?
Il est avorté.
Et quel regard vous portez sur l'image de la gastronomie africaine ?
Alors justement, malheureusement, je trouve que déjà, on n'associe pas le terme gastronomie à l'Afrique. Très souvent, on parle de cuisine africaine. Et quand on parle de cuisine africaine, les gens visualisent quelque chose de folklorique, les mains qu'on trempe dans le tchep, le foutou banane mélangé n'importe comment, pas très beau visuellement. C'est un peu ça l'image de la gastronomie africaine aujourd'hui. Si je descends dans la rue aujourd'hui et que je demande à 10 Parisiens lambda quels sont les plats africains que vous connaissez, déjà, il y a très peu de chances qu'on me réponde. Et quand on me répondra, on va me dire le mafé ou le tchep. Donc, on n'est que sur le Sénégal, alors qu'il y a 54 pays sur le continent. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire.
La cuisine haut de gamme africaine existe bel et bien. Et c'est cette réflexion qui vous a poussé à créer le Miam Show.
Tout à fait, tout à fait. Le Miam Show, c'est une plateforme qui fait de la curation des expériences culinaires inspirées d'Afrique. Pourquoi inspirées d'Afrique ? Parce que déjà, il faut qu'on garde en tête que, en dehors du continent mer, l'Afrique a nourri plusieurs aires culturelles sur le plan culinaire. On a une gastronomie afro-cubaine, on a une gastronomie afro-brésilienne, on a une gastronomie afro-américaine qu'on appelle soul food, une gastronomie afro-caribéenne. Donc, il faut déjà que les Africains et même le monde se rendent compte qu'il y a toutes ces richesses à valoriser. À côté de ça, on a des chefs, on a des entrepreneurs culinaires africains qui font des produits haut de gamme et gourmets. Et moi, c'est cette image que j'ai envie de pousser à travers le Miam Show. Changer un peu le regard et le storytelling sur la cuisine africaine, qu'on l'associe à de la gastronomie qui respecte les standards internationaux.
Quel message finalement vous souhaitez véhiculer à travers cette plateforme ?
Le message, c'est simplement de dire que la cuisine africaine, elle est internationale. Et qu'elle ressemble à toute autre cuisine, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement cantonnée à de la tradition et à du folklore.
Joanne, vous restez en plateau avec nous et on va continuer de parler de l'amour, de la cuisine, des tendances culinaires, de cuisine africaine et d'entrepreneuriat avec nos autres invités. Nathalie Brigogoum, écrivain, chef cuisinière, fondatrice du blog Envolée Gourmande et consultante culinaire. Bonjour.
Bonjour.
Fatima Tawan et elle, pâtissière et fondatrice des marques Tima One et One. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Alors, on va débuter ce plateau par un reportage. Ils se sont donné pour mission de promouvoir la gastronomie du continent au sein de leur pays. Cette valorisation est un combat et un défi au quotidien. Quels sont les obstacles rencontrés par ces jeunes? À quels défis doivent-ils répondre pour être compétitifs? Eh bien, les réponses dans ce reportage réalisé par notre correspondante au Bénin, Jocelyne, et notre correspondant en Guinée, Alpha.
Au Bénin, Aboubakr Babatunde Bakary, la trentaine, titulaire d'une licence professionnelle en communication, révèle ses talents en restauration. Après avoir fait ses preuves en communication dans plusieurs structures, il s'est investi dans ce domaine. Ainsi, il a ouvert son maquis dénommé Cœur Tranquille.
L'idée de créer un bar, c'est d'abord partie d'une passion. Depuis toujours, moi j'ai toujours aimé faire la cuisine. Toujours la bonne cuisine. J'aime partager le bonheur qui me revient. J'aime partager ce bonheur là autour de moi. Et de là, je me suis dit, bon, est-ce qu'il ne fallait pas créer quelque chose pour partager ce bonheur culinaire dans un environnement doré? C'est comme ça que je me suis retrouvé à créer cette jeune entreprise de bar-restaurant ici.
Selon le jeune entrepreneur, les débuts n'ont pas été faciles.
Au début, c'était pas la joie, c'était un peu compliqué, sinon très compliqué, parce que aucune institution de microfinance n'était vraiment disponible à financer mes débuts. Donc j'ai dû courir de part et d'autre, faire de petits jobs, trouver un petit capital pour pouvoir m'autofinancer et me retrouver à ce niveau aujourd'hui.
Si au Bénin, malgré les difficultés, Aboubakr Babatunde Bakary a pu réaliser ses rêves en ouvrant son propre restaurant, en Guinée, cela n'a pas été le cas pour Djenabou Simakan, âgée de 28 ans et diplômée en sociologie. Amoureuse de la cuisine, depuis son bas âge, elle a l'ambition d'ouvrir un jour son propre restaurant dans la capitale Conakry.
En fait, la cuisine, déjà, c'est quelque chose que j'aime bien. Depuis très petite, maman m'a inculqué cet amour. Donc, j'ai commencé à cuisiner très tôt. Et comme j'ai fini d'étudier, j'ai tapé à beaucoup de portes qui n'ont eu que ça pas donné. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce que j'aime?
Contrairement à Aboubakr du Bénin, cette passionnée de l'art culinaire a suivi d'abord une formation avant de se lancer.
Je suis allée à Dakar pour suivre une formation. Nous avons suivi une formation en service de table, cuisine et restauration. Nous avons appris à tenir une salle de restauration. Nous avons aussi appris à faire des cocktails pour les boissons de nos hôtes.
Faute de moyens financiers pour ouvrir son propre restaurant, la jeune dame travaille chez elle pour l'instant. Dans son quartier à Taouya, en haute banlieue de Conakry, Djenabou Simakan fait des gâteaux pour des clients sur commande.
Pour le moment, je travaille à domicile sur commande. Je prends des commandes en ligne ou dans le quartier pour faire des gâteaux. J'ai une page Facebook en ligne. C'est la pâtisserie de Mabicha. Les abonnés qui veulent des gâteaux me contactent. Et parfois, je fais la livraison. D'autres fois, c'est les clients eux-mêmes qui viennent chercher les gâteaux. Actuellement, la tendance dans notre pays, c'est les anniversaires. Donc, ça va, petit à petit.
Travailler à domicile n'est pas du tout facile, selon notre restauratrice. Djenabou Simakan nous explique ses difficultés.
C'est pas facile de se faire des clients en état à domicile. Parce que les gens ont plus tendance à aller vers les personnes qui ont déjà un local. Parce que pour eux, ce sont les plus professionnels. Donc, actuellement, je suis en train de me battre pour me trouver un local qui n'est pas aussi très facile d'avoir, parce qu'il n'est pas aisé de trouver un local accessible, c'est-à-dire en bordure de route ou pas trop caché.
Ces difficultés sont certes nombreuses, mais la passion est au-dessus, nous confie Simakan. Même si elle n'a pas encore trouvé un local, l'objectif de Djenabou est d'ouvrir son restaurant dans les mois à venir.
Dans ma vision, je compte lancer mon restaurant en octobre, c'est-à-dire après les vacances. Parce que là, ça trouvera que je suis prêt et je veux suivre une formation en décoration événementielle au Burkina.
Au Bénin, Aboubakr, lui, met ses qualités de communicateur au service de sa clientèle et propose pour toutes les couches socio-professionnelles depuis 3 ans des mets tels que le riz, la cassa, la pâte et bien d'autres. Et pour se faciliter la tâche, le jeune entrepreneur a employé 5 jeunes dames chargées de servir les clients. Il enregistre ainsi près de 90 000 francs CFA de revenus en moyenne par semaine, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins vitaux.
Le bar-restaurant, plus ou moins, me permet de joindre les deux bouts. Je ne veux pas dire ça me permet de subvenir à tous mes besoins. Ça me permet quand même de joindre mes deux bouts. J'arrive à gérer de petits problèmes personnels, familiaux, à travers les quelques intérêts, les quelques bénéfices que j'arrive à tirer de sa bonne gestion.
Aboubakr Bakary, conscient de sa capacité d'entreprendre, invite les jeunes à lui emboîter les pas.
À l'endroit de la jeunesse, une famille à laquelle j'appartiens, parce que je suis aussi jeune, je leur demande d'oser, d'avoir le courage, d'avoir un grand rêve et de se battre pour réaliser ses rêves. Tu n'as jamais se dit, l'autre viendra le faire pour moi. Personne ne le fera pour toi. Si toi-même, tu ne te lèves pas tôt pour te battre pour atteindre tes objectifs.
Aboubakr Babatunde Bakary compte implanter d'ici quelques années son restaurant dans plusieurs villes du Bénin. Il s'inscrit dans le concert des jeunes entrepreneurs béninois.
Ouvrir son établissement, voyons si c'est aussi le rêve de nos invités. Fatimata, est-ce que vous rêvez vous aussi d'avoir votre restaurant un jour?
Pas un restaurant, mais une boutique à Dakar, je dis pas non.
Et vous, Joanne, tiens? Vous parliez d'un restaurant tout à l'heure pour animaux.
Oui, alors moi non. Dans un premier temps, c'est d'abord d'avoir une plateforme et un média assez puissant pour valoriser toutes ces personnes qui sont en plateau. Et puis ensuite, dans mes vieux jours, pourquoi pas, oui, un restaurant.
Et vous, Nathalie?
Alors, et moi, pas vraiment un restaurant, mais plutôt des ateliers. C'est-à-dire un espace dans lequel on pourrait faire des ateliers, que je pourrais louer aussi aux gens. Je suis un peu plus pédagogue, donc l'enseignement, voilà, c'est vraiment ça, un espace pour des ateliers.
Des projets, Nathalie, vous en avez plein, tout comme Djenebou, qu'on vient d'entendre dans le reportage. Elle travaille comme chef à domicile et sa passion a été transmise par sa mère. Que vous inspire son parcours?
Ben, ça me parle quand même. Ma mère m'a transmis le virus, l'amour, plutôt la passion de la cuisine. Elle travaillait, elle était secrétaire, mais elle cuisinait aussi. Et elle vendait de la nourriture à son travail. Et ses patrons étaient d'accord.
Nathalie, que vous évoque le mot cuisine?
Alors, le mot cuisine, avec un C majuscule. Pour moi, c'est des senteurs, c'est des odeurs, c'est une émotion. C'est de la viande, c'est du poisson, c'est aussi des gâteaux, c'est des farines. Voilà, c'est pour ça que pour moi, quand je dis je fais de la cuisine, je ne précise pas je fais de la pâtisserie, je fais de la confiserie. Pour moi, c'est tout ce qui est bon. Et tout ce qu'on peut donner aux autres et recevoir d'eux.
Voilà. Beaucoup d'amour, finalement.
Ah oui.
Et Nathalie, comment la cuisine est entrée dans votre vie?
Je pense par ma mère, je crois que c'est ça. Et même avant ma mère, même au-delà de ma mère, j'ai une grand-mère paternelle qui vendait ce qu'on appelle les camonelles de sable, les beignets haricots.
Dans vous la confirmez, Joanne?
Tout à fait, BHB qu'on appelle le
beignet haricots plus la bouillie. Voilà, elle vendait ça. Mon grand-père paternel était pêcheur. Mon grand-père maternel avait des plantations. Donc j'ai toujours aimé les produits, donc j'ai baigné dans la cuisine, dans les produits surtout. Donc c'est les produits qui m'ont amené à la cuisine.
Et vous avez fait de la cuisine votre métier finalement?
Oui, depuis 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Oui.
Donc vous êtes chef cuisinière à domicile pour particuliers, vous cuisinez dans des restaurants éphémères, vous êtes la fondatrice du fameux blog Envolée Gourmande. Commençons par ce projet justement pour que nos auditeurs vous connaissent davantage. Il résume un peu votre personnalité, pourquoi vous avez initié ce blog?
Alors j'ai initié ce blog parce que il y a 3 ans et demi, à peu près 4 ans, je cuisinais de plus en plus. J'ai toujours cuisiné, j'ai toujours reçu des gens et j'ai toujours créé des recettes. Mais là, je cuisinais beaucoup. Il y avait plein de nourriture sur la table. Je les prenais en photo et je les regardais. Alors ma fille, je pense, me trouvait malheureuse. Elle m'a dit, maman, tu sais, il y a des blogs. Avec un blog, tu peux faire de la photo, tu peux écrire parce que j'aime écrire, tu peux cuisiner et tu peux partager. Voilà, j'ai lancé donc ces envolées gourmandes qui sont plutôt des envolées familiales parce que ma famille m'a beaucoup aidée, ma mère, ma sœur, mon mari, mes enfants. Voilà, des envolées gourmandes et lyriques. Donc il y a aussi de la poésie sur le blog.
Oui, parce que l'écriture, c'est votre passion. Et si aussi. Je devrais définir le blog Envolées gourmandes à nos auditeurs, que devrais-je annoncer?
Alors le blog Envolées gourmandes, c'est une plateforme, maintenant c'est comme ça qu'on dit, donc qui permet alors de retrouver des recettes simples, rapide à réaliser, coloré, diététique, original, et qui ont à cœur de mettre en avant les produits de l'Afrique, même si c'est de façon parfois très tenue. Voilà.
C'est vrai que j'ai remarqué que vous aimez insister sur l'importance de la richesse et de la variété de nos produits africains.
Je n'en démordrai pas. L'Afrique en général est riche et je viens d'un pays que j'estime extrêmement riche en termes de produits, qu'on appelle le grenier de l'Afrique centrale. Tout à l'heure, Joanne parlait de 54 pays. Et moi, j'insiste sur cet aspect-là. Nous sommes de plusieurs pays différents et même dans l'intérieur d'un même pays, deux Sénégalais ne cuisineront pas de la même façon.
Ouais, c'est tout à fait vrai, parce qu'on parle de cuisine africaine, mais comme il y a 54 pays, peut-on vraiment parler d'une cuisine africaine ?
Moi, je ne parle pas de cuisine africaine. Je ne parle jamais de cuisine africaine. Je parle de cuisines africaines au pluriel. Parce que je demande souvent aux gens, est-ce qu'il y a une cuisine européenne ? On me dit non, et là on comprend tout de suite que, ah oui, mais pourquoi on dit cuisine africaine ?
C'est pour mettre tout le monde dans le même sac, finalement.
Exactement.
Ce qui n'est pas le cas. Parlons de votre ouvrage, Mon imprécis de cuisine. Et si la boulangerie et la pâtisserie avaient un goût d'Afrique? Alors, que contient ce recueil poétique et gourmand, comme vous l'appelez?
Oui. Ouais, j'ai dit souvent que ce n'est pas un livre de cuisine, c'est pas un recueil de poèmes, donc c'est un recueil poétique et gourmand. Alors, qu'est-ce qui contient? Donc, j'ai travaillé avec un médecin nutritionniste, qui est Virginie Gemdjom, pour qu'elle me présente, qu'elle me sorte, qu'elle me dise, les valeurs nutritionnelles de nos produits. De la banane plantain, du manioc, de l'igname, du moringa, du baobab, etc. Il y a 130 astuces dans le livre, des variantes aussi. Il y a 50 recettes. Et 50 photos, bien sûr, qui accompagnent les recettes.
Très belles photos, alors.
Merci.
Je recommande aussi ce livre. Ça fait deux livres qu'on recommande. Attention à vos portefeuilles.
Je suis contente que vous trouviez les photos belles, parce que je les ai faites.
Décolorées, comme vous avez dit.
Je suis contente.
Gourmande en plus.
Voilà. Il y a aussi 11 textes poétiques. Une partie des textes parle de cuisine, parle de produits.
Que vous avez rédigés ?
Oui. Et l'autre partie de texte parle plutôt de ma maman, de l'absence, de la douleur, de l'affliction, voilà.
C'est vrai qu'on sent un bel hommage à cette personne qui vous est chère et qui a disparu il y a très peu de
deux
temps.
Deux ans.
Il y a deux ans. Oui. Et ça commence d'ailleurs, bon, à la première page, pour ma maman.
Oui, pour ma maman, et je pense que, c'est peut-être idiot, mais c'est la vérité, je l'ai cru immortelle. Je n'ai jamais, je dis jamais pensé que ma mère pouvait mourir.
Eh bien, vous lui rendez
donc
un bel hommage avec ce magnifique livre.
Et il y a aussi un poème, le premier qui est là, c'est le poème de Birago Diop.
Souffle.
Donc, c'est le seul qui n'est pas de moi. Voilà, donc les morts ne sont pas morts. C'est un poème que je trouve magnifique et que je disais, il faut absolument que je le mette dans mon livre. Quoi.
Magnifique voilà. Livre, en tout cas. On Merci. Partagera, bien entendu, avec nos auditeurs comment se procurer ce très bel ouvrage.
Alors, comment se procurer ce très bel ouvrage? Pour le moment, on me contacte sur mon blog envoleegourmande.com. On m'envoie un email envoleegourmande@gmail.com. On m'appelle, on me suit sur les réseaux sociaux. Dans le monde entier, le livre est distribué. On peut aussi le trouver donc chez Afrikit dans le 14e, chez BMK, bientôt à la FNAC aussi. N'est-ce pas, Joanne?
Alors, j'ouvre une page comme ça, oh, pif, au hasard.
Quelle page?
Je tombe sur la 72, d'accord. Ma tarte à l'ananas aux deux douceurs et en plus sans gluten.
Oui. Donc, dans ce livre, je mets vraiment en avant nos produits. Quand je dis nos produits, les produits de l'Afrique en général. Donc, dans cette tarte-ci, on trouve donc des biscuits sans gluten. C'est des biscuits, alors, page 48, que j'ai fait à base de manioc. On trouve des dés d'ananas, du beurre fondu, de la noix de coco râpée, de la gelée de fleur d'hibiscus, qui est quelque part dans le livre aussi, de la pâte à tartiner maison, qui est dans le livre, de la peau de gingembre, de la cannelle, qu'on trouve aussi dans des pays africains.
Beaucoup voilà. De bonnes choses, en tout cas, ça nous fait saliver. Nathalie, vous êtes aussi consultante culinaire, alors en quoi consiste ce volet de votre métier?
Alors, c'est un volet qui me plaît beaucoup. Alors, c'est un bien grand mot pour dire que, alors, je peux travailler avec un restaurateur, par exemple, qui dit, j'ai envie de donner un peu de peps à ma carte, j'ai envie de modifier des choses, j'ai envie de travailler avec des produits d'Afrique, qu'ils soient africains ou pas. Voilà. Donc, j'ai envie de changer un peu ce que j'ai sur ma carte aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer sur la base du manioc, voilà, en entrée, plat et dessert, dont je peux l'accompagner sur les recettes. Donc, c'est vraiment cette partie-là.
Vous créez des recettes et vous les proposez.
Je crée des recettes pour des restaurateurs. Je crée des recettes aussi pour des marques. Voilà. Donc, en ce moment, j'ai commencé une collaboration avec une marque qui est en Afrique depuis 30 ans. Au Sénégal, d'ailleurs. Et au Bénin. Bon, je ne sais pas si on doit citer les marques, donc je dis rien. On veut?
Non, c'est okay. Très bien comme ça.
Voilà, dans cette partie-là, Je peux aussi accompagner des gens qui m'appellent pour dire j'aimerais faire un atelier, comment tu as procédé.
C'est vrai que vous réalisez aussi des ateliers culinaires.
Exactement.
Ah, vous êtes multicarpin. On a besoin de vous. Pour...
Oui, mais le point commun de tout ça, ce sont les produits, la valorisation de nos produits, les mettre en avant, nos épices. Voilà, dans les madeleines qui sont ici, j'ai pas mis de poivre. J'aime beaucoup le poivre en pâtisserie, mais j'ai mis des feuilles de moringa.
Ah, vous nous avez gentiment réalisé de belles pâtisseries. Nos auditeurs ne pourront pas goûter, mais je vais le faire à leur place. Alors, Joanne, que vous inspire ce parcours de Nathalie ?
Elle transmet beaucoup d'amour et de passion pour ce qu'elle fait. Et moi, c'est le genre de choses typiquement que j'ai envie de montrer sur le Miam Show. Et également la pédagogie. C'est vrai que nous, les Africains, je trouve qu'on connaît peu notre cuisine. C'est-à-dire déjà, d'un pays à l'autre, les épices, on revient encore sur les épices, n'ont pas le même nom. Donc, on va se retrouver à utiliser une épice qui a un autre nom dans un autre pays. Donc, du coup, dès qu'on sort, on ne sait plus trop comment s'y retrouver. Donc, il y a aussi un aspect de pédagogie dont on a besoin. Et du coup, Nathalie, le fait très bien.
De pédagogie, de transmission, parce que j'aime aussi travailler avec les enfants.
Également.
Il faut qu'ils connaissent nos produits. Moi-même, j'en apprends tous les jours. Je les connaissais pas tant que ça. J'en apprends tous les jours, et sur le Cameroun, et sur les autres pays du monde. D'Afrique et du monde.
Petite anecdote, on va dire ça comme ça. J'étais à la FNAC, la fameuse.
On se garde. Il y a plus pour ça.
Il y a quelques semaines, parce que je cherchais des livres africains.
Oui.
Donc, je suis ravie de voir que déjà sur le plateau, on en a deux qui sont référencés sur l'Afrique, parce que j'ai fait une recherche donc avec l'assistante, puisque je cherchais plein de livres africains.
D'accord.
Il y en a que deux qui sont référencés à la FNAC. Le dernier date de 1996. Donc,
c'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même deux grands chefs qui ont écrit des livres, c'est-à-dire Christian Abégan, il n'y a pas deux ans. Oui, mais c'était il y a deux ans.
Il y a deux ans.
C'est pas en 96. Et puis Alexandre Belaoula, qui a aussi deux ou trois livres.
Bah donc, ça veut dire qu'il y a justement un vrai sujet de valoriser tous ces livres, en fait, qu'on ne trouve pas. Enfin, il faut fouiller, en fait, quand on va dans
des... C'est pour ça que pour le moment, Aïssatou et moi, donc Aïssatou Mbaye, nous sommes notre propre éditeur, on se bat comme des dingues pour nous faire connaître, pour nous faire référencer. Parce que là, ils ont des livres, mais bon, je ne sais pas.
Ouais, en tout cas, ce sont de très beaux livres de qualité, et puis en plus qui montrent qu'il y a un réel patrimoine culinaire africain. C'est ce qui est très intéressant. Fatimata, je vous ai vu réagir un petit peu. Un mot justement sur ce qu'on vient d'entendre autour de Nathalie, chef très inspirante.
Ouais, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elle dit qu'il n'y a pas une cuisine africaine, mais des cuisines africaines. Et ça, c'est vraiment important de pas mettre tous les pays d'Afrique dans le même sac et de reconnaître l'identité forte que chaque cuisine a, en fait. Donc, ouais, ça, je trouve ça très marquant.
Oui, Nathalie.
Toujours, pour compléter ce que Fatimata vient de dire, il y a des chefs, par exemple, ici en France, qui ne quittent pas, par exemple, l'Alsace ou le Pays Basque, et qui ont des étoiles et qui sont connus dans le monde entier et qui font une cuisine régionale. Ils n'en sont pas moins français. Ce n'est pas parce que, par exemple, je parle du Cameroun, parce que j'ai déjà eu deux, trois remarques, que je ne suis pas pour l'Afrique en général. Donc, si on pousse, si on valorise les produits de chacun des pays, chacune des régions, c'est l'Afrique en général qui monte aussi. C'est ça que je veux dire.
Absolument.
On n'est pas obligé de dire qu'on fait tout.
C'est vrai que pour le cas de la France, en dehors des plats traditionnels du Maghreb, on connaît très mal les cuisines africaines, en tout cas en France. Pourrait-elle être aussi connue et avoir autant d'adresses que les restaurants japonais ou les burgers qui envahissent Paris ?
Faudrait peut-être commencer déjà chez nous. Africains, à arrêter de dévaloriser ce métier de cuisinier ou de pâtissier, à reconnaître que c'est un métier noble, qui a son prestige aussi, et à partir de là, on pourra déjà avoir plus de cuisiniers et de pâtissiers, et la visibilité viendra avec aussi.
On a de très belles choses à dire autour de ce sujet, et Anna est aussi avec nous ce samedi.
Bonjour Diarra.
Bonjour Anna. Alors, nos auditeurs vous entendent dans votre chronique culture et vous avez une autre casquette puisque vous présentez une rubrique culinaire à la télévision dans l'émission Vous et Nous. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être commençons par parler de votre rubrique.
Exactement. Alors, la rubrique qui s'intitule Arôme est une rubrique culinaire dans cette émission, en fait, de société. Et le but, c'est vraiment, avec plusieurs chefs ou des blogueurs culinaires, de partager des recettes faciles à reproduire à la maison avec des ingrédients africains qu'on utilise en général pour des plats plutôt classiques et traditionnels tels que la sauce gombo pour la Côte d'Ivoire ou le spokanja au Sénégal. Mais en fait, on va proposer d'utiliser par exemple le gombo Pour d'autres plats dont on n'aurait pas nécessairement pensé, par exemple une salade de gombo ou des petites brochettes à déguster à l'apéro, braisées ou bouillies, et notamment le mil ou le manioc. Donc le but, c'est vraiment de présenter aux téléspectateurs des recettes simples avec Nathalie, chef Nathalie Brigongoum, par exemple, avec
Nathalie
qui je suis...
fait partie justement
exactement,
de ces
chefs-là. Exactement, donc les premières émissions ont été enregistrées avec elle, donc le but c'est vraiment de présenter la chronique et d'avoir un chef à côté qui nous propose des recettes facilement reproduisables à la maison.
En parlant de recettes, je suis convaincue que vous avez une toute petite recette à nous livrer et qu'on pourrait reproduire facilement, Anna, facilement chez
très
nous.
Facilement, bien sûr, et justement il s'agit d'une recette de notre cher chef Nathalie Brigongoum, des pancakes de farine de manioc aux amandes et au sirop d'agave. Le temps de préparation très simple, 10 minutes, et le temps de cuisson, 45 minutes. Il vous faut 300 g de boisson d'amande tiédie, du lait d'amande en fait, 140 g d'amande moulue, 100 g de farine de manioc, 7 centilitres d'huile neutre, 11 g de levure chimique, une demi-cuillère à soupe de maniguette moulue et une petite pincée de sel. Dans un saladier, il suffit de mélanger tous les éléments secs, les farines, la levure, le sel et la maniguette. Ensuite, ajoutez la boisson d'amande tiédie et bien mélanger. Dans une poêle anti-adhésive, versez 2 cuillères à soupe ou une louche de pâte et faites cuire environ 2 minutes. Quand la surface est sèche et que l'on voit de petites bulles se former, retournez les pancakes et laissez encore 1 minute. Mettre du sirop d'agave sur chaque pancake ainsi que les amandes torréfiées. Alors pour les petites astuces, vous pouvez faire plus ou moins des pancakes en fonction de la quantité de pâte que vous mettez dans la poêle. Celles-ci font à peu près 12 cm de diamètre environ. Et la maniguette qui appartient à la même famille que le gingembre, elle est aussi appelée plante du paradis, juste pour la petite info. Donc c'est une épice africaine dont les graines séchées et broyées sont utilisées à la fois comme médicament et condiment, comme la plupart des épices en effet en Afrique et ailleurs. Donc voilà pour la petite recette.
Recette qu'on mettra sur internet pour tous nos auditeurs qui nous ont
absolument
écoutés.
Absolument, et qui figure également.
Et qu'on va retrouver dans les livres Mon Imprécis, bien sûr, du chef Nathalie Brigongoum. Merci
absolument.
Infiniment, les filles, d'avoir participé à cette émission. Semaine prochaine, épisode 2, avec notamment le portrait de Fatima Tawan. Petite pause musicale avec l'artiste béninois Niyi Kossiberou et son titre éponyme. Il sera avec nous à la fin de cette émission, mais d'abord, je vous laisse savourer.
I did really miss step on the rhythm, never be beat the same. Yeah, we don't know here the clock, I will walk on my own, they say. Send me for cutting me booty for this, there's a basic. Oh, see, baby, now my name. You be eating for the beat, me have to do this for my G's. I let flow, yeah, no send me that a key, say let her put it on repeat. Every other day, they will never rest in my house to get blessed. Just like Sean Carter and the under legend, he won go chin for me chest. Victory and me, Oshere, Moshi Shakira, Kira. The dream was to the teens, Doremi, Sola, Sola. Any back for John and Wobu, Evora, Abba, Lasha. You like what made you be nice, Abosha, Congo, Asa. I'm better than the rest, I want it, oh yes, a suck, so no be man, power, power. Slowly, slowly, glory from glory, we crossing the borders, we crossing the borders. In the ranking, Echo, me the high, far away. Never compare me to another fake ass nigga, me Oshé, far away. Rhythm is step on the rhythm, never be beat the same. Yeah, we don't wear the G-clock, and we walk on the mountain, they say. Send me for cutting me booty for this, there's a basic. Oh, see, baby, now my name. Any rhythm is step on the rhythm, never be beat the same. Yeah, we don't wear the G-clock, and we walk on the mountain, they say. Send me for cutting me booty for this, there's a basic. Over the west, my nigga, mo badura, mo keke, I'm on my lighter, keep my tongue jack, be sexy, I'm on the tag, but I'm your Jesus. I'm on Maria, Eruku, yak, my nigga, my fans, they cover me, won't call me, they be in the me, flow me, champion, but I'll do. Money, do, don't need, but all I'm in my day, you feel me?
money, only pon me mine. Batman talk, but me never mind. Me look forward, focus on me then. Come on, let me do my thing. Money, only pon me mine. Batman talk, but me never mind. Me look forward, focus on me then. Come on, let me do my thing. I'm better than the rest. I want it, oh yes, a sucker, so no be my power, power. Slowly, slowly, glory from glory. Be crossing the borders, be crossing the brothers. Be the ranking. Echo, me the high, far away. Never compare me to another fingers, nigga. Me yeah. Oh, she far away. I need redeem, step on the redeem. Never be the same. Yeah, we don't know you don't drink like I will walk on a mountain. They say, send it, we'll continue put it for two days. They say, oh, see, baby, now my name. I need redeem, step on the redeem. Never be the same. I would on we hit a G clock and we walk on the mountain. Say, send me for cutting my booty for Tuesdays. I be say, oh, see, baby, now my name.
C'était Niyi Kosiberu, Kosiberu.
Alors, on dit quoi?
La cuisine, on en parle encore et encore dans Alors on dit quoi ? Après toutes ces discussions sur l'amour de la cuisine, je sens que je fais saliver vos papilles et je vais continuer car Aïssa Toumbaï, sénégalaise et blogueuse de 29 ans, est notre invitée. Bonjour Aïssa Tou.
Bonjour.
Alors vous êtes donc blogueuse depuis 2015. Vous avez créé Aïssa Tou Cuisine avec ce slogan « Le monde aux saveurs d'Afrique ». Qu'entendez-vous par là ?
Alors oui, Aïssa Cuisine, le monde aux saveurs d'Afrique, c'est justement refaire la cuisine du monde en y mettant des saveurs africaines. Donc ce sera dès lors la pâtisserie au goût bissap, hibiscus ou bouille, le fruit du baobab. Ce sera des plats qu'on a l'habitude de voir sous d'autres formes, mais avec cette fois-ci des saveurs d'Afrique. Et là, principalement Afrique de l'Ouest, puisque je viens du Sénégal.
C'est un peu un projet qui vous ressemble, puisque vous venez de citer, vous êtes sénégalaise d'origine, et vous avez évolué en France.
Voilà, exactement. C'est vraiment les recettes qui sont dans mon blog, c'est à mon image, c'est entre enracinement, ouverture, enracinement par rapport à l'Afrique, le Sénégal, et ouverture par rapport à au fait que je sois loin du Sénégal, et voilà, les voyages et tout ce que j'ai pu voir à travers le monde.
Et on sait que les Sénégalais adorent manger.
Exactement.
Votre amour justement pour la cuisine a débuté lorsque vous étiez au Sénégal ?
Oui, alors depuis que je suis toute petite, j'adore cuisiner. Donc les plus beaux souvenirs d'enfance, c'est moi en train de cuisiner avec ma mère. Donc c'est elle qui m'a vraiment donné sa passion pour la cuisine. On a beaucoup cuisiné, elle et moi, quand on était au Sénégal. Et quand je suis arrivée en France étudiante, livrée à moi-même, cuisiner, ça me rappelait le pays, ça me rappelait ma mère, ça me rappelait beaucoup de choses et c'était une façon de revivre, de survivre au mal du pays. Mmh. Donc j'ai commencé à cuisiner comme ça et après, de fil en aiguille, j'ai fait une page Facebook pour partager, enfin une page, un groupe pour aider un peu les autres étudiants à mieux manger, à partager ma passion et après je suis devenue, enfin j'ai lancé mon blog.
Votre projet a aussi débuté par une frustration personnelle que vous avez vécue. Racontez-nous ce déclic au moment du démarrage d'Aïssa Tou Cuisine.
Je peux dire que ça a commencé vraiment, enfin cette frustration, c'était au fil des années, quand je parlais de cuisine sénégalaise, les gens me disaient « oui, yassa, mafé ». Et à chaque fois, je me disais « mais non, il n'y a pas que le mafé, il n'y a pas que le yassa, ça c'est des plats un peu modernes, mais il y a plein d'autres plats ». Et les gens connaissaient pas. Le déclic, c'était à mon pot de départ de mon stage, de fin d'études, j'avais passé la nuit à cuisiner, donc j'avais fait plein de petits plats pour faire découvrir justement notre cuisine. Et j'avais pris par précaution des croissants, enfin des viennoiseries. Donc quand j'ai déposé tout
par
sur
précaution,
la...
donc vous saviez éventuellement que ces plats n'allaient pas plaire ?
Ben non, je me suis dit bon, on va prendre des viennoiseries pour les gens qui, parce que tout le monde n'aime pas tenter. Il y a des gens pour eux, enfin c'est de l'expérience. Donc je me suis dit bon, on en prend. Et puis les Français ont l'habitude de prendre des viennoiseries au petit déjeuner. Mais moi, je voulais vraiment un pot de départ qui me ressemble et qui avait aussi cette touche sénégalaise. Donc j'avais fait du chakri, ce sont du yaourt avec des céréales, enfin du mil. J'avais fait le fruit du baobab qui est moins connu, l'hibiscus encore ça va et même il y a quelques années c'est encore moins connu que maintenant. Et quand j'ai posé tout ça sur la table, j'avais fait mes verrines et tout, les gens ils scrutaient et ils venaient, ils disaient c'est quoi, j'expliquais mais bon. Enfin, les gens s'étaient plus rués vers les viennoiseries, ceux qui connaissaient, et pas, enfin, ceux qui avaient essayé de goûter. Bon, ils ont aimé, mais voilà, c'était cette frustration-là. Les gens me disaient, mais non, moi, j'aime, quand ça me parle pas, non, par expérience, je refais les dégustations. Quand je connais pas, je préfère m'abstenir. C'est des choses comme ça. Et je me suis dit, mais comment je peux faire pour que les gens aient envie de manger cette cuisine qu'ils connaissent pas? Comment les amener vers cette cuisine-là et surtout en parler, parce que j'avais envie de partager beaucoup de choses et c'était frustrant.
Votre univers, justement, c'est ce qu'on appelle l'afrofusion, une cuisine métissée qui mixe les saveurs africaines à celles d'une autre culture. Une façon aussi de rendre ces plats plus accessibles aux palais occidentaux, c'est exactement l'expérience que vous avez expliquée. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen efficace de faire connaître notre cuisine africaine ?
Alors, je parlerai peut-être pas d'afrofusion, parce que afro, bon, c'est un peu fort, et puis le terme, enfin, je parlerai plutôt de démocratiser nos saveurs, de rendre nos saveurs un peu plus accessibles, parce que mais c'est normal, hein, quand quelqu'un connaît pas quelque chose, c'est normal que la personne ait peur de goûter, ou voilà, surtout si ça ressemble à rien à ce que la personne connaît. Donc le but, justement, c'est de proposer des plats que les gens connaissent mais avec des saveurs qu'ils connaissent pas, et le but, c'est d'amener les gens à découvrir, justement, en disant, ah tiens, par exemple, je donne juste un exemple, je fais un gâteau et à la place du coulis, ou un dessert à la place du coulis de framboise, je remplace par du coulis de bissap, d'hibiscus. La couleur va parler parce que ça rappelle la framboise et fruits rouges. Donc la personne va pas être rebutée, va pas, voilà, va avoir envie de goûter. Et quand la personne va goûter, elle va me dire, mais ah, ça, c'est quoi le goût? Et là, je vais ouvrir la discussion. Je pourrais dire, ah tiens, c'est de l'hibiscus. On cultive ça là. Et là, vraiment, il y a une
storytelling, voilà, une histoire.
Exactement.
Derrière.
Et la personne est plus apte à écouter que si j'avais proposé le plat brut.
C'est aussi ça, ce métissage, justement, prendre une simple madeleine qu'un Français pourrait reconnaître et y insérer des produits africains.
Exactement.
Et en me promenant sur votre site, j'ai vu une recette de lassi à la mangue. D'où vous est venue cette idée de mariage des cultures entre l'Inde et l'Afrique ?
Alors, le lassi, oui, parce qu'en fait, j'ai vécu en Inde quand j'étais étudiante. J'étais un peu partie à l'aventure. J'avais décidé d'y aller par rapport à un programme d'échange, et surtout parce que ce pays me fascinait. Et donc, cette recette-là, c'était lassi à la banane plantain. C'était pour, justement, faire honneur à ce pays-là qui m'a beaucoup marqué. Enfin, j'adore la cuisine indienne, donc voilà, c'était vraiment me souvenir et puis me rappeler de tous ces bons moments dans ce pays.
Et votre passion vous a aussi amené à écrire un ouvrage sorti en avril dernier, Saveurs subsahariennes du monde. Ouais. Comment a été élaboré ce livre et surtout que contient-il ? Alors moi, j'ai la chance de l'avoir entre les mains, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent, eh bien, dites-nous ce que contient ce livre.
Alors, Saveurs subsahariennes, c'est un livre qui me ressemble, hein. C'est un livre qui est la suite logique de mon blog et qui regroupe les thèmes que j'avais envie d'aborder, qui me tenaient à cœur, notamment les céréales africaines, donc les céréales de l'Afrique de l'Ouest, les plantes et les légumineuses qui sont peut-être parfois peu connues et qui sont très riches du point de vue nutritionnel. Et surtout, je donne juste un exemple, on parle beaucoup de céréales sans gluten actuellement. Et en Afrique subsaharienne, on n'a pas de blé. On cultive pas le blé. On a que du sans gluten. Et pourtant, quand on parle de sans gluten, on pense pas forcément à nous. On parle de quinoa et d'autres céréales d'Amérique du Sud. Mais les céréales africaines, les gens connaissent pas. Donc, le but de ce livre, justement, c'est de mettre en avant ces céréales-là, ces farines, ces céréales, ces légumineuses qu'on peut travailler dans la vie de tous les jours et d'offrir plus de recettes à base de ces aliments.
Un très beau livre, en tout cas.
Merci.
Que je recommande. Vous soutenez aussi, d'ailleurs, des associations à travers la vente de ce livre ?
Oui. Alors, je soutiens deux associations. Donc, 1 € est reversé à 2 associations à chaque achat de livre. Donc, l'association Les Petites Gouttes, qui vient en aide aux enfants qui sont dans la rue, aux enfants qui mendient, à toute personne qui est exclue du système social sénégalais, notamment les albinos. Et puis, l'association Ayonene, qui aide les enfants des orphelinats.
En parlant d'enfants, la naissance de votre fils a visiblement déclenché peut-être des idées recettes. J'ai vu qu'il y avait sur votre blog des biscuits pour enfants aux saveurs d'Afrique. Et je parle de ce volet car nos auditeurs ont peut-être eux aussi des enfants et c'est important, l'éducation du palais commence très tôt.
Exactement. Et je pense que même nous qui sommes loin, c'est très important de garder ce lien avec nos origines et de pouvoir familiariser nos enfants avec nos produits. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Par exemple, la dernière fois, j'avais fait un cours sur le fognon, sur les céréales sans gluten.
Oui, parce que vous donnez des ateliers.
Exactement, j'anime des ateliers de cuisine. Et il y avait une maman qui était venue et qui avait découvert le fognon à travers mon cours et qui était très contente parce qu'il y avait des enfants métis. Elle me disait, je peine à leur faire aimer notre cuisine. Et donc, elle avait adoré parce que j'avais fait du fognon avec du lait de coco, des morceaux de mangue, un dessert qui plaît aux enfants. Mm-hmm. Et donc, depuis la dernière fois, elle m'a envoyé un mail en me disant vraiment merci parce que je suis contente. Mes enfants mangent du fognon. Et là, je peux dire au moins, j'ai gagné quelque chose. Et c'est ce travail-là que j'aime. Bah, c'est la même chose avec mon fils. J'essaie de lui faire goûter nos produits. Pour le moment, c'est pas très gagné. Mais il apprend à aimer nos produits. Et puis, enfin, c'est vraiment un travail de transmission qui me tient beaucoup à cœur.
Vous avez un blog à succès. Vous avez plus de 46 000 followers sur Facebook, quasiment plus de 13 000 sur Instagram, une belle communauté, un livre que je recommande particulièrement. Quels sont vos autres projets, Aïssatou ?
Alors, le but de tout ça, c'est de pouvoir proposer un jour un restaurant ou un concept qui ressemble à tout ça, cet univers, Aïssatou Cuisine, et c'est ce qu'on espère.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur, Aïssatou.
Merci.
Alors, on dit quoi ? Jaranjaï.
Je vous l'avais promis, notre coup de cœur musical, c'est Niyi Kossiberou, artiste béninois. Loco Homo Niyi, à l'état civil, Niyi est l'une des perles de l'afropop béninois. Il est avec nous ce matin. Bonjour Niyi, je suis très heureuse de vous recevoir.
Merci de m'avoir invité surtout.
Niyi, on parle de cuisine depuis le début de l'émission. Vous aimez cuisiner, vous ?
J'adore cuisiner. Cuisiner me détend, m'aide à déstresser.
Quelle est votre spécialité ?
Alors, foutou banane et sauce arachide.
Ça donne envie des plats chez vous.
Exactement.
Et c'est un plaisir du coup de cuisiner. Pas d'a priori justement sur les hommes en cuisine.
Non, enfin moi j'adore cuisiner tout simplement. Enfin depuis tout jeune, ma mère m'a appris à cuisiner. Elle avait souvent cette phrase fétiche comme quoi une femme pourra pas sous ta gueule à cause de la cuisine. Tu sauras cuisiner. Si elle veut pas cuisiner, tu passes à la cuisine, tu cuisines et voilà, life goes on.
Personne ne va se moquer de vous et puis au contraire, vous allez même aider votre future femme.
Exactement. Exactement.
Et vous avez d'ailleurs travaillé dans la restauration. Est-ce que c'était une belle expérience ?
C'était une très belle expérience parce que voilà, j'ai découvert plusieurs autres mets que je connaissais pas. Et alors, je cuisinais pas forcément, mais je voyais les cuisiniers faire et j'ai pris note et j'ai essayé de refaire chez moi.
Alors, venons-en à votre autre talent, le chant. Vous chantez depuis quel âge, Nini ?
Alors, on va dire que j'ai reçu la musique en héritage parce que mon grand-père paternel, artiste chanteur de musique traditionnelle, il faisait dans du rythme qu'on appelle le Agbaja. Le Agbaja, c'est un rythme partagé un peu sur la côte ouest du Bénin au Ghana en passant par le Togo. Et donc, à en croire les dires de ma mère, quand j'étais bébé, en fait, quand je pleurais, il suffit de me poser un poste récepteur dans mon berceau et tout de suite, j'avais le sourire. Pareil, quand quelqu'un pilait quelque chose à côté, que ce soit le maïs, le sorgho, etc., moi, je me mettais à sauter dans mon berceau. Donc, en grandissant, j'écoutais tout le temps les musiques, comme on le dit, les disques de mon père. Donc, j'ai été bercé par la rumba congolaise, les taboulés, Mbilabé, le Fayatez, Pépé Calé, etc. Et également la musique de chez ma mère, le Nigeria, les chanteurs Yoruba, des rythmes tels que le Fuji, le Akbala, etc., etc.
Vous êtes habité finalement par la chanson,
ça, ouais.
Par la musique.
Et
vous avez aussi fait des études dans le domaine musical.
Ouais.
Qu'avez-vous étudié ?
Alors, j'ai étudié plein de choses. J'ai un parcours plutôt atypique, mais on va se recentrer sur les études que j'ai effectuées en culture. J'ai étudié le management des organisations culturelles et artistiques.
Alors, quel était l'objectif de cette formation ?
Alors, en fait, j'ai réorienté mon projet professionnel parce qu'entre-temps, j'ai fait des études un peu dans la comptabilité, le management de la qualité, etc., etc. Je m'éloignais en fait de ma passion première, qui est la musique, donc la culture plus largement. Je voulais faire une formation diplômante dans la chose. Alors, je faisais de la musique, ça c'était bien, mais après le côté administratif de la chose, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on écrit des projets, comment est-ce qu'on va chercher des fonds pour pouvoir financer ces projets. Donc j'avais besoin de ce pan-là de la chose. Du coup, je me suis dit, écoute, il faut aller vers tes rêves, il faut étudier, il faut embrasser la chose. Et voilà,
C'est important pour vous de se professionnaliser, c'est un petit peu ça.
C'est très important. Alors, en même temps, quand t'es artiste, tu peux pas être l'homme à tout faire. Mais également, quand tu sais comment ça marche, tu peux voilà essayer de former ton équipe, et, essayer de dire voilà comment ça se passe, voilà ce qu'il faut faire, toi fais ci, toi fais ça, voilà, etc. etc. C'est important.
Très. Et on le voit, ça paye, parce qu'aujourd'hui, le succès commence à être au rendez-vous.
Tout doucement, on va dire. C'est pas encore totalement au rendez-vous, mais c'est un travail de longue haleine. Ça vient tout doucement. On laisse le temps faire son travail et voilà.
En tout cas, nous, on apprécie beaucoup ce que vous faites dans Alors on dit quoi, Neyi.
Merci.
Et on a d'ailleurs passé un de vos sons, Marounou, il y a quelques temps.
Exactement.
Aujourd'hui, vous nous présentez I Remember.
I Remember, qui est un extrait de mon album Idounou, sorti courant octobre 2017, et qui est une chanson d'amour. Le titre même en dit long, déjà, I Remember, je me rappelle, la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi, j'ai su tout de suite que c'était toi la bonne, etc., etc., donc voilà.
Une chanson d'amour. Un thème qui vous inspire ?
Je me pose pas de questions. La plupart du temps, quand je dois écrire des chansons ou quand je suis en studio, à 90%, c'est le thème qui vient tout de suite. J'ai plus de facilité à chanter l'amour qu'autre chose.
Et quelles sont vos autres inspirations, Neyi?
Le quotidien, les joies, les peines, la vie de tous les jours, redonner espoir aux gens, ne pas abandonner, il faut se battre, la vie c'est un combat, le jour où t'arrêtes de te battre, t'es mort dans le film.
Est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent également?
Bob Marley et Fela Anikula Pukuti.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Neyi. On écoute de suite I Remember.
Avec plaisir.
I remember the first time I set my eyes on you. And I know that you had to wait for so long. Moronti ajote mi felu rekba de sweetheart. And I know that you had to wait for so long. Had to wait for so long. Had to wait for so long, but since that day, me only jam, me only moon, me only soon, baby, money like that jam, me only jam, me only moon, me only soon, and I did wait for so long, I did wait for so long, and I did wait for so long. I did wait for so long. Mo fe fe shade, ololufe. Mo fe romre, ololufe mi. Shomba, ibi kibi ti wabalole mi otele. Kajo, shomo kupala yo. Mo fe re o, fola shade mi ye. Kajo, shomo kupala yo. Mo fe re o, ololufe mi. Kajo, shomo kupala yo. Make I follow you go, cause now you don't wanna give my life to. Yeah, I know the flow, cause I truly wanna marry you. Make I follow you go, cause now you don't wanna give my life to. And I need you again, I know the flow, cause I truly wanna marry you. Mi boleke be jetu bejero nye mubao mate daro.
Et c'est en musique que nous clôturons cette émission spéciale Jeunes passionnés de cuisine. Ce n'est pas fini, puisque samedi prochain, nous parlerons des entrepreneurs culinaires avec Fatima Tawan. Elle est pâtissière et fondatrice des marques Timawan et Wan. Nous verrons comment elle tente de faire rayonner la gastronomie africaine à travers ses concepts. Et si vous aussi, vous êtes intéressé par cette thématique et que vous souhaitez entrer en contact avec nous, eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous au 33 647 740 742. Merci à toute l'équipe de l'émission d'Alors on dit quoi, Daba, Claire, Dubril, Beverly, Mariam et Guillaume. Retrouvez dans un instant les suites des programmes de RFI. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence sur la radio du monde. Oubno, Loha, Gongol, à bientôt.